Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. Le blogueur, à commercial, ericlantier.net. Le tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci de m'accompagner dans ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de se trouver un emploi d'été, de la diminution de la violence à l'école, de la solution aux inégalités sociales, de la réplique de Denise Bombardier à Richard Martineau sur la valeur de la foi chrétienne et en rafale, les bonnes nouvelles du jour. Débutons par cet article qui a été publié sur la plateforme du Figaro qui s'intitule « Pour trouver un job d'été, c'est le moment ou jamais ». Comme le dit la chanson « It's now or never ». Alors, vous allez me dire, mesdames et messieurs, que cet article a été publié sur une plateforme française et non pas sur une plateforme québécoise ou canadienne. Ce qui arrive, c'est que la France fait quand même partie de l'Occident, fait partie du G7, du G8, du G20. Et il y a quand même des similitudes qui se passent entre la France et le Québec. Comme par exemple, il ne faut surtout pas négliger son CV. Qu'est-ce qu'on nous dit dans cet article? Il faut y aller franchement, montrer sa motivation, son dynamisme et arborer un grand sourire. Il ne faut surtout pas négliger son CV et avoir préparé sa présentation. Et donc, c'est important d'avoir un bon curriculum vitae qui démontre nos capacités, nos qualités qui sont en lien avec ce qui est attendu dans l'emploi qui est proposé. Maintenant, il y a des emplois en France qui attirent énormément de jeunes, comme par exemple l'animation pour l'ambiance. Ça peut être un animateur de camp de jour. Il y a beaucoup de camps de jour, spécialement dans la région de Montréal, dans les grands centres. Pourquoi? Parce que les deux parents travaillent et ont besoin, justement, parce que l'école n'est plus en cours. Alors, l'école est fermée durant l'été. Eh bien, à ce moment-là, les camps de jour prennent la relève. C'est un peu comme les genres de garderies où est-ce qu'il y a de l'animation, des activités, des sorties, etc. Et ils ont souvent besoin d'animateurs. Et, spécialement dans la région de Montréal ou dans les grands centres comme Québec, il y a des festivals. Et dans des plus petits centres aussi, il y a des festivals. Mais dans la région de Montréal, il y en a presque à tous les semaines pendant l'été des festivals. Donc, à ce moment-là, ça requiert énormément de gens, spécialement dans la restauration, puisque lorsque les gens participent à un festival, eh bien, ils vont aller manger, ils vont aller se restaurer. Et donc, ça, c'est le deuxième point, la restauration et l'hôtellerie. Ensuite, la vente. Eh bien, évidemment, si vous êtes dans un milieu touristique, vous cherchez de l'emploi dans un milieu touristique, eh bien, la vente, justement, avec tous les souvenirs, etc., eh bien, ça attire de la clientèle. Pour les plus courageux, c'est aussi vrai en France qu'au Québec, l'agriculture. Je connais même quelqu'un qui... son père a une entreprise maraîchère. Ils sont obligés d'engager des étrangers parce que les Québécois ne sont pas toujours au rendez-vous. Et les grands événements sportifs pour les fans, eh bien, c'est sûr qu'on a le soccer, on a le football ici l'été, et malheureusement, on n'a plus le baseball professionnel. Mais, selon le maire Coderre, ça pourrait revenir. Et donc, lorsqu'un étudiant travaille pendant l'été, eh bien, il s'acquiert de l'expérience. Et il va justement avoir un budget qui va lui permettre de s'acheter ce qu'il aurait besoin, de s'acheter ce qu'il n'aurait peut-être pas pu être en mesure de s'acheter s'il n'avait pas travaillé. Maintenant, spécialement dans des familles où est-ce que les revenus sont limités, où est-ce que les revenus sont modestes. Parce qu'on est dans une société où est-ce qu'on fait face à plusieurs inégalités sociales. Et sur le sujet des inégalités sociales, eh bien, Mme Ravary, sur la plateforme du Journal de Montréal, en parle. Et elle offre une solution pour contrer ou pour niveler les inégalités sociales. Voici ce qu'elle dit. « Et si, au lieu de dépenser de l'argent pour rendre la vie des pauvres plus tolérable, les gouvernements investissaient pour transformer les enfants de la pauvreté en citoyens productifs, non dépendants de l'État et qui paieront un jour des impôts? Le plus beau projet de société que le Québec pourrait se donner serait de mettre l'éducation au centre des préoccupations de l'État en faisant tout ce qui est possible pour que les pauvres parmi les plus pauvres aient accès à la même éducation que les plus riches parmi les plus riches, notamment en rendant l'école publique aussi performante que l'école privée. Et moi, je partage ce qu'elle dit, mesdames et messieurs. Évidemment, il n'y a aucune solution sur la planète qui règle tous les problèmes du monde. Ça, c'est clair. Mais est-ce qu'on peut aller de l'avant, par exemple? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut faire un pas de l'avant? Et elle poursuit en disant, comme l'écrit Jean-François Roberge dans « Réinventer l'école », le Québec ne peut se contenter d'obtenir la note de passage. L'éducation est la meilleure façon de lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Et ça, c'est clair, mesdames et messieurs. Et elle touche le point. On a besoin d'un système public performant, aussi performant que l'école privée. Et ce n'est pas juste une question d'injecter de l'argent. C'est une question philosophique, d'abord. C'est une question de mobiliser toutes les ressources, et pas seulement les ressources qu'on doit payer, mais aussi les ressources qui sont prêtes à s'impliquer. Il y a des gens qui ont des talents. Il y a des gens qui ont les moyens financiers de s'impliquer dans une école comme s'ils s'impliquaient dans une communauté. Mais il faut les valoriser. Il faut aller les chercher, ces gens-là. Il faut les mettre à contribution. Mais pour ça, ça nous prend un système avec une structure plus souple et avec plus de leadership au sein des écoles. Et pour ça, mesdames et messieurs, je l'ai dit souvent, il faut abolir les commissions scolaires. Dans nos écoles, on a des problèmes, mais il y a également des solutions qui sont mises en place. Et surprise, la violence est à la baisse dans nos écoles, selon une nouvelle étude. Et ça, c'est ce que nous rapporte Daphné Dionvien sur la plateforme du Journal de Montréal. Ce qu'elle dit, c'est contrairement à ce qu'affirment des enseignants de Québec et leurs syndicats, la violence dans les écoles est en diminution selon une vaste enquête provinciale sur le sujet. C'est l'un des constats tirés du deuxième volet du portrait de la violence dans les écoles québécoises, de 2013 à 2015, une vaste étude présentée mardi matin par l'équipe de Claire Beaumont, titulaire de la chaire de recherche sur la sécurité et la violence en milieu éducatif de l'Université Laval. Le premier volet réalisé en 2013 avait permis de tracer le tout premier portrait de la violence dans les écoles québécoises. Deux ans plus tard, la situation a évolué positivement selon les chercheurs qui ont interrogé plus de 40 000 élèves, parents et enseignants. Ce qu'on nous dit, c'est qu'au primaire comme au secondaire, les activités dangereuses et le vandalisme ont diminué. Les adultes étrangers sont aussi moins présents dans l'école et les élèves moins impolis envers les adultes. Une des rares ombres au tableau, les conflits entre élèves selon leurs groupes ethniques sont en hausse. Maintenant, ce qu'on nous dit ici, c'est que le vandalisme, la violence, les activités dangereuses sont en baisse. Et pourtant, la semaine dernière, ce qu'on nous disait, le 16 avril 2016, dans le Journal de Montréal, 2300 cas d'agression physique ou de violence psychologique d'élèves à l'endroit d'enseignants ont été répertoriés dans les écoles du Québec depuis 3 ans. Ce qui veut dire que, mesdames et messieurs, c'est que ce chiffre-là est très gros. Et si on fait le lien entre les deux, ce qui veut dire, c'est qu'il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans, il y avait plus de violence qu'aujourd'hui. Donc, on pouvait répertorier plus que 2300 cas en 3 ans, si on recule 5-6 ans en arrière. On doit se réjouir de ce que la violence diminue, mais on doit continuer à travailler parce qu'elle n'est pas enrayée. Et ça, c'est important. Et ça a été soulevé par Richard Martineau, également 2 jours plus tard, dans un autre article qui a été publié le 18 avril 2016, qui reprenait les mêmes informations pour expliquer d'où venait cette agressivité ou cette violence à l'école. Et Richard Martineau n'est pas un article prêt d'être commenté ou d'être critiqué, puisque son ami Denise Bombardier a réagi à un de ses articles qui s'intitule « Le monstre du spaghetti volant ». Ça a été publié le 25 avril dernier. Voici ce qu'il disait, Richard Martineau. « Pour ceux qui l'ignorent, le pastafarisme est une religion, ou une parodie de religion, créée en 2005 en Oregon. Ses membres croient, ou font semblant de croire, que le monde a été créé en 4 jours par une boule de spaghettis qui vole dans l'espace. Isabelle Nariana, l'employée municipale qui revendiquait le droit de porter une passoire à spaghettis sur la tête, sur sa photo de permis de conduire, était pastafariste, donc une disciple de cette religion, le pastafarisme. Si vous permettez à certains croyants de porter une kippa ou un voile sur leur photo de permis de conduire, Pourquoi n'aurais-je pas le droit de porter un foulard de pirate ou une passoire à spaghetti, demande-t-elle. Ben voyons, c'est complètement ridicule, va vous dire votre ami catholique, cette histoire ne tient pas debout deux secondes. Et il va continuer en disant ceci. Et le fait que le monde a été créé en sept jours par une entité invisible qui vit dans le ciel, ça tient debout, ça? Ça mérite d'être pris au sérieux? Et là, votre ami catholique va répondre, selon Richard Martineau, « Mais ce n'est pas la même chose! » Et Richard Martineau va répliquer en disant, « Ah non, comment ça? » Et là, l'ami catholique va dire, « Mais voyons, on ne peut pas comparer cette croyance ridicule à une religion comme la religion catholique. Pourquoi? » réplique Richard Martineau. La Genèse, le déluge, l'Apocalypse, le buisson ardent, l'Immaculée Conception, Sodome et Gomorre, la multiplication des pains, la transsubstantiation, l'ange Gabriel, les sept péchés capitaux, les dix commandements, la marche sur l'eau et la résurrection, c'est vrai? C'est fondé scientifiquement? Non, mais quand même, ça fait plus de 2000 ans que cette religion existe. Et alors, un tissu de mensonges vieux de 2000 ans est-il plus crédible qu'un tissu de mensonges vieux de 10 ans? Après un certain nombre d'années, un mensonge se transforme-t-il par miracle en vérité? Et là, il va dire, c'est non seulement un gaspillage d'argent public de débattre sur la question du pastafarisme, mais c'est une question aussi, c'est que l'État perd énormément d'argent parce que, justement, il y a des échappatoires fiscaux pour les groupes religieux, il y a des déductions de taxes, il y a des exemptions, etc. Et là, il va remettre ça en question. Et donc, pour lui, si je résume tout ça, vous pourrez lire l'article, eh bien, il n'y a pas de différence entre le catholicisme ou toute autre religion puis le pastafarisme. Pour lui, c'est toutes des histoires inventées. Maintenant, vous allez dire, oui, mais il cite le catholicisme. Beaucoup de nos auditeurs sont protestants, sont évangéliques, croient à la Bible, ne croient pas, par exemple, au catholicisme ou ce qui est enseigné ou même ce qui est mentionné. C'est vrai, mais quand même, ça mérite une réaction. Et cette réaction n'a pas tardé puisque son ami, Denise Bombardier, a répliqué ce matin avec un article qui dit ceci. « Je sais que vous n'êtes pas parfait, et qu'une de vos failles est d'être un athée intégriste. Votre chronique d'hier sur la parodie de religion connue sous le vocable de l'Église du monstre en spaghetti volant vous a plongé dans un état second. Je vous cite, « Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Toute expression religieuse n'est qu'ironique à vos yeux. La bénédiction chrétienne n'est pour vous, je le suppose, qu'une façon de couper l'air en quatre pour citer un des contes de Voltaire. Or, le besoin de transcendance chez l'homme ne serait donc que risible à vos yeux? Mais comment comprendre le monde en réduisant la foi à une faiblesse? Il faut alors détruire les chefs-d'œuvre, des cathédrales en passant par la musique sacrée, une partie de la littérature et de la peinture, toute expression créatrice inspirée par une foi qui transporte les montagnes? Voltaire, croyant un être suprême, sorte de gendarme dans le ciel qui imposait la morale aux hommes. Les églises créées ou non par Dieu sont à l'image des hommes. Les égarements des gens de foi, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, démontrent bien que les êtres humains sont des pécheurs habités par le mal. Vous êtes trop intelligent, cher Richard, trop imprégné par le doute pour confondre les sectes avec les grandes religions millénaires, dépositaires de la spiritualité humaine. Dépouiller le discours religieux de sa symbolique, décrire la sublime liturgie catholique, par exemple, en la désacralisant, ne mène qu'au néant. Parlons sport. Pour le profane, le hockey apparaît comme une activité d'homme bizarrement accoutré qui transpire en patinant sur la glace, poussant un morceau de caoutchouc avec un bâton pour l'envoyer dans le filet. Votre métier de provocateur doit avoir des limites. Permettez-moi de vous dire affectueusement que cette fois, la rondelle vous a échappé. Et ça, c'est intéressant, mesdames et messieurs, parce que ce qu'elle dit ici essentiellement, elle affirme qu'avoir la foi dans la transcendance, d'avoir la foi en Dieu, ce n'est pas quelque chose d'hurluberlu. Et on a besoin d'avoir de plus en plus de gens publics qui vont oser se lever et le dire. Le dire poliment. M. Martineau a le droit d'exprimer sa pensée, ses idées. Mais Mme Bombardier également. Et c'est pourquoi M. Martineau n'a pas hésité une seconde à répliquer. Quelques heures à peine après la diffusion de ce papier, M. Martineau a répliqué. Je vous laisse le soin d'aller sur la plateforme du Journal de Montréal pour voir la suite de ces échanges. Maintenant, puisque le temps file, c'est le temps des bonnes nouvelles du jour. Eh bien, une première dans l'industrie, Aviva Canada et l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques créent une application mobile gratuite destinée à la préparation aux situations d'urgence. Et donc, pour les 10 000 premières applis téléchargées, Aviva Canada fera un don de 5 $ pour chaque téléchargement à la Croix-Rouge canadienne afin de venir en aide aux collectivités touchées par les catastrophes. Alors, vous avez cette application gratuite-là et ça va vous poser différentes questions. Et à ce moment-là, vous allez avoir des instructions en cas d'urgence, quoi faire, comment vous protéger, comment réagir. Par exemple, une trousse de survie de 72 heures, comment la préparer, etc. Ensuite, l'économie touristique montréalaise bénéficie de 1,1 milliard de dollars de dépenses grâce à la culture. Donc, grâce à la culture, Montréal bénéficie d'énormément d'argent. Et donc, la culture, c'est payant pour la ville de Montréal. Et c'est pour ça. Pourquoi? Une des raisons, bien, c'est parce que les gens vont manger au restaurant. Et c'est pourquoi McDonald's du Canada embauche un nombre record de nouveaux employés en une journée, plus de 8 900. Et ce qu'on nous dit sur cette plateforme, eh bien, c'est un dépassement record, puisqu'il a dépassé sa cible de 30 %. Eh bien, moi, je ne suis pas nécessairement un grand amateur de McDonald's, mais je peux vous dire, ici, il se démarque en termes d'offres d'emploi et d'embauche, et ça, c'est important de le souligner. Sur ce, mesdames et messieurs, puisque le temps est dépassé, je dois vous dire à tous et à toutes, à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le Tour d'Horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@ericlantier.net. Le Tour d'Horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre Tour d'Horizon. Au revoir!